Toi, céleste consolateur,
Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure.
Aujourd'hui, je vais vous parler des mots qui dérangent. Parce qu'il est vrai que dans notre parcours de vie, nous avons reçu une éducation morale, l'éducation de nos parents, de l'école, et peut-être aussi avons-nous reçu une éducation religieuse ou une éducation athée. Et nous avons rencontré des personnes, nous avons assisté à des événements, nous avons entendu ou nous avons lu des récits qui ont pu nous blesser psychiquement et même spirituellement. Alors nous nous sommes construits des défenses pour ne pas trop souffrir. Et parmi ces défenses, il y a le rejet des mots qui nous dérangent, car ils sont justement liés à nos blessures. Alors beaucoup des mots du langage religieux entrent justement dans cette catégorie, car ils sont chargés bien souvent de connotations blessantes, portées par des siècles d'utilisation culpabilisante, et nous préférons essayer de ne plus les entendre. Alors nous fermons nos oreilles, nous pensons à autre chose, ou même nous évitons tout lieu ou toute personne qui emploie ces mots et ce vocabulaire. Parfois, ces mots aussi ont été déformés. Ils ont été mal expliqués, mal interprétés, mal traduits. Aussi parce que l'état de connaissance, l'état des mœurs, la situation politique de l'époque faisaient que nos ancêtres les ont définis parfois comme ils pouvaient. Je vous disais aussi, parfois les traductions ont complètement déformé le sens originel du mot. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus, et c'est le cas de le dire, nous ne voulons plus en entendre parler. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous allons essayer d'utiliser des synonymes ou bien des expressions qui atténuent ou éliminent petit à petit le mal-être que le mot original a engendré. Et ce faisant, nous allons perdre au fur et à mesure une partie du sens, et à la fin, plus personne ne sait exactement de quoi l'on parle. Alors un des premiers mots, et je crois que vous allez comprendre tout de suite, un des premiers mots qui rentre dans ces catégories qui nous dérangent, c'est bien sûr le mot péché. C'est un mot qui a pris au fil des siècles une connotation moralisante, et il est lourdement chargé, vous savez, de culpabilité, de faute, de crime, de tromperie, de mal. Il a un relent confessionnal, un relent d'humiliation. Et quand on dit à quelqu'un qu'il a commis un péché, ou bien qu'il est pécheur, ou qu'elle est pécheresse, eh bien tout de suite, on se sent jugé, on se sent fautif, on se sent humilié, on se sent montré du doigt, on se sent dans l'erreur. On dit « il a fait une faute ». Et dans notre époque, c'est vrai, où le paraître a une grande importance, nous recevons ce mot presque comme une insulte, comme une attaque à notre image. Et cela devient insupportable, voire irritant d'entendre ce mot. Et comme vous l'avez expérimenté vous-même, dans le langage religieux, le mot péché est prononcé régulièrement. Et l'Église n'a d'ailleurs pas manqué de l'utiliser tant et plus pour avoir une sorte d'emprise morale sur les fidèles. Il semble être un des mots autour duquel gravite toute notre vie liturgique, parfois. D'ailleurs, dans la liturgie dominicale, en dehors des lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est pas moins de 14 fois que le mot péché, pécheur ou quoi, est utilisé. Et dans la liturgie des défunts, ça monte même à 17 fois, toujours en dehors des lectures donc de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais en réalité, qu'est-ce que le péché ? Alors, est-ce que c'est vraiment une faute au sens habituel moral que nous l'entendons ? C'est-à-dire que c'est un acte qui est en contradiction avec une loi, ou avec une norme, ou avec un règlement, je vais dire. Alors il faut peut-être revenir justement à l'origine étymologique. Le mot français péché, il vient du latin peccatum. Alors peccatum, c'est vrai que ça signifiait faute, une action coupable, un crime, une erreur. Peccatum venant du verbe pecco, peccare, qui signifie faire un faux pas. Donc, dans le sens moral et social, un péché, c'est commettre une faute, c'est se tromper. En langage chrétien, peccatum traduit le grec amartia, qui signifie l'erreur aussi, la faute, et qui dérive du verbe amartano, qui signifie manquer le but, dévier, s'égarer, se tromper de chemin. Voyons déjà qu'en grec, ce n'était pas tout à fait la même chose qu'en latin. Et le mot grec amartia, dans la traduction grecque de la Bibliothèque hébraïque, recouvre plusieurs termes hébreux, parmi lesquels chata, Awon, Pécha. Et on comprend que le Nouveau Testament grec, lorsqu'il parlait d'Amartia, l'entendait bien sûr au sens biblique du terme. Mais quel est donc ce sens biblique ? Alors, pour bien comprendre la signification du mot péché, je crois qu'il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Et il nous faut sortir de la littérature religieuse scandaleuse, je vais dire, des générations précédentes, et spécialement du 19e et du 20e siècle, et ainsi donc revenir aux origines. Dans la tête des grands prophètes du 8e siècle et du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire donc c'est Isaïe, Jérémie, Amos, Osée, le péché c'était tout ce qui détruit l'homme tant physiquement que spirituellement. C'était vu en somme comme une sorte de prostitution, prostitution aux idoles du néant, c'est-à-dire celle qui n'apporte pas la vie, une détérioration à tous les niveaux de l'homme qui se détourne de celui qui est le tout autre, qui est la vie, qui est Dieu. Le péché, c'est tout ce qui, au lieu d'élever l'homme et de le construire, vise à sa destruction et à son anéantissement. Alors, le judaïsme et le christianisme enseignent maintenant que la création n'est pas un processus achevé et terminé, mais qu'elle est toujours en cours. Alors, c'est important parce que une des raisons de la désaffection, finalement, de nos églises, c'est le fossé qui s'est creusé entre ce que, d'un côté, la science nous montre, les observations scientifiques de l'univers, et de l'autre côté, les lectures fixistes de la Bible, des textes bibliques. Et le pape Benoît XVI, au Collège des Bernardins, en septembre 2018, a explicitement pris position en ce sens d'une création inachevée, invitant ainsi à une relecture des textes bibliques. Pierre-Théard de Chardin, d'ailleurs au XXe siècle aussi, avait déjà énoncé ce concept d'une création continue, en disant « Nous ne sommes pas nés dans un cosmos, mais dans une cosmogenèse », c'est-à-dire un cosmos qui évolue tout le temps. Donc, c'est-à-dire dans un univers qui est en cours de construction, qui est en cours de création, qui est en cours de transformation. Et on peut dire que la science actuelle confirme ce fait. Chaque jour, il y a des nouvelles galaxies qui apparaissent dans le ciel, des galaxies qui naissent. Chaque jour, il y a de nouvelles espèces qui naissent aussi, qui apparaissent. On pourrait même dire qu'il y a des enfants qui naissent aussi, ça nous le savons très bien. L'homme, bien que chef-d'œuvre de la création, est aussi une œuvre inachevée, qui vise une finalité, une destinée royale, une destinée divine. Et tout le texte biblique nous fait entrer dans la perspective d'une alliance entre un principe créé et un principe premier, le principe créateur, Dieu. C'est donc une invitation à une relation vivante qui ne peut se bâtir que si nous restons en lien avec ce principe qui nous fait être. Tout ce qui vient donc contrecarrer cette entreprise de finalisation d'un être divinisable est appelé péché. Le péché, c'est répondre à la tentation de se construire tout seul. Alors l'Église orthodoxe, justement, définit le péché comme un comportement dans lequel l'homme expérimente l'échec des épousailles divines auxquelles il est appelé. La sainteté, c'est devenir ce que nous sommes appelés à être. C'est répondre au projet de Dieu, projet qu'il a déposé dans nos profondeurs. C'est choisir finalement Dieu comme son époux. Le péché, c'est d'aller choisir un autre époux. Le péché, c'est une altération finalement de l'existence humaine, de l'être en tant que l'homme, donc de l'être de l'homme, en tant que personne conviée à la déification. Somme le péché, c'est aller à l'encontre du processus de la création et c'est viser finalement à sa destruction. Saint Paul résumait très bien ce point dans son épître aux Corinthiens, puisqu'il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il y a donc ce qui est bon pour l'homme, pour son développement spirituel, et puis il y a ce qu'il détruit. Le péché est ainsi une forme, je vais dire, de stagnation, de régression vers l'animalité. On est appelé à s'élever et à quitter un peu notre animalité. Alors Saint Basile le Grand disait, l'homme est un animal qui a reçu vocation de devenir Dieu. Alors, un théologien orthodoxe du XXe siècle, Claude Tresmontant, écrit « Le péché ne relève pas de l'éthique ou de la morale, encore moins du juridique, mais il relève de l'ontologie, c'est-à-dire de l'être même de l'homme, de sa réalité profonde dans ce qu'il peut avoir d'absolu, dans sa nature intime et profonde, par opposition à la seule considération de son apparence humaine. » Alors parfois nous entendons dire justement que le péché c'est rater la cible ou c'est une erreur de visée que nous faisons. Eh bien qu'est-ce que c'est que cette cible ? Qu'est-ce que nous sommes censés viser justement ? C'est viser notre déification avec l'aide de Dieu. Et ce qui est important, c'est pas de séparer le but, la déification, avec le moyen, l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, le but devient de l'orgueil, de la vanité. Et péché, c'est ainsi rater la cible de l'amour de Dieu. En somme, on peut dire que le péché n'est pas à regarder comme une pensée, ou un acte permis ou pas permis, bien ou mal, légal ou illégal, correct ou incorrect, mais comme la maladie de l'homme spirituel. Parce que cette maladie, finalement, l'empêche d'accomplir l'œuvre de divinisation à laquelle il est appelé. Et la cause première de cette maladie, c'est l'oubli de Dieu. Le remède, c'est la foi en l'amour infini de Dieu. Alors bien sûr, cette maladie spirituelle qu'est le péché va se traduire aussi concrètement dans notre vie de tous les jours. Nous sommes des êtres trinitaires, corps, âme et esprit, et toute atteinte à la partie spirituelle a bien sûr des répercussions sur l'âme et sur le corps. Alors on dit, mais comment peut-on pécher ? Mais dans la liturgie, avant la communion, nous énumérons toutes les formes que peuvent prendre le péché, par pensée, par parole, par action, par intention, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Il n'y a pas ainsi que par une atteinte, je vais dire, à l'intégrité physique de l'homme, par des crimes ou bien par des violences physiques sur autrui, ou aussi sur nous-mêmes, que nous pouvons pécher. Mais toute atteinte physique volontaire va aussi priver l'homme du pouvoir de se développer pour atteindre la cible que Dieu nous a montrée, devenir un homme Dieu. Il n'y a pas que physiquement que nous pouvons contrecarrer le devenir de l'homme et l'épanouir, son épanouissement. Il y a aussi dans toutes les manipulations psychologiques, sous toutes ses formes, comme le mensonge, comme le harcèlement, comme le dénigrement, la perversité, la jalousie, l'avarice. Nous pourrions dire en somme que tout ce qui transforme une personne en objet va à l'encontre du développement de la vie tout court, et de la vie spirituelle en particulier. Parce que lorsqu'on objective une personne, c'est d'une certaine façon la priver de sa liberté. C'est la rendre esclave, c'est lui ôter la vie, que ce soit en la faisant l'objet de la satisfaction de nos besoins ou en l'idolâtrant. Et l'auto-idolâtrie, lorsque donc on s'idolâtre soi-même, c'est l'orgueil qui conduit aussi à l'oubli de Dieu. Le péché ne découle pas uniquement de notre volonté ou d'un acte conscient, mais aussi involontairement et inconsciemment. Et à nouveau, saint Paul, dans son épître aux Romains, explique bien toute la difficulté qu'il vit. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » En somme, le péché, c'est comme un virus qui a pris possession de mon corps, de ma tête, et qui me rend malade et m'affaiblit. Saint Antoine le Grand, d'ailleurs, présentait le péché par ces mots. Ce qui est selon la nature n'est pas un péché. Le péché, finalement, il appelle ça le choix du mal. Alors, il explique un petit peu. Manger, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est de manger sans rendre grâce, manger sans décence et sans tempérance. Le regard, s'il est pur, n'est pas non plus un péché. Le péché, c'est de regarder avec envie ou avec orgueil ou avec indiscrétion. Ce n'est pas d'écouter paisiblement, mais d'écouter avec hostilité. Ce n'est pas réserver la langue à la... c'est de ne pas réserver la langue à l'action de grâce et à la prière, mais de lui laisser dire n'importe quoi. C'est de ne pas travailler de nos mains, de nos mains pour secourir les autres, mais de s'en servir pour tuer et voler. Ainsi, finalement, chacun de nos membres pêche de lui-même en faisant, je vais dire, le mal au lieu du bien, en agissant contre la volonté de Dieu. Alors, heureusement, le péché est une maladie curable, mais ça va demander toute sa vie pour arriver. Et le médecin des âmes, je vais dire le sauveur, bien c'est le Christ. Le mot grec d'ailleurs soter, duquel vient le mot sauveur en français, signifie justement celui qui guérit. Dans sa vie terrestre, le Seigneur est venu nous montrer le remède à appliquer finalement pour notre guérison. Et lors des nombreux miracles de guérison qu'il a accomplis, il a souvent aussi et d'abord remis le péché et remis les péchés, car la véritable santé de l'homme finalement, c'est sa santé spirituelle. Lorsqu'il pardonne les péchés, le Christ libère l'homme de ce qui n'est pas sa nature propre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est l'amour éternel. Et nous sommes en bonne santé spirituelle lorsque nous exerçons cette capacité d'amour qui est en nous. Pour aimer Dieu, pour aimer les autres hommes et pour nous aimer nous-mêmes aussi. Plus on oublie Dieu, finalement, plus on ne regarde que son nombril et plus nous sommes malades spirituellement. Nous ne sommes non plus jamais pécheurs par rapport aux autres hommes, mais uniquement par rapport à Dieu. Se repentir, c'est reconnaître la sainteté de Dieu, c'est reconnaître son amour infini et revenir vers lui pour rétablir et approfondir la communion, la relation avec lui. C'est prendre conscience que la vie à laquelle je suis appelé, c'est donc une vie divine. C'est ma fonction, c'est le sens de ma vie, de devenir amour comme Dieu est amour. Dans la prière avant la communion, d'ailleurs, nous disons « Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison aussi de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais d'une seule parole et je serai guéri. Je suis premier pécheur. Peu importe finalement les autres. C'est d'abord sur moi que je dois agir. Il n'y a pas de classement relatif, il n'y a pas les grands pécheurs, il n'y a pas les moyens pécheurs, il n'y a pas les petits pécheurs, comme il n'y a pas les grands péchés, les moyens péchés, les petits péchés. Aux yeux de Dieu, finalement, ce qui compte, c'est la conversion, c'est le repentir. Que nous prenons conscience de notre éloignement par rapport à l'image de Dieu qui est en nous, par rapport à ce Dieu d'amour. Alors que ce soit comme le fils prodigue ou comme le bon larron sur la croix, Dieu est amour, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. En somme, le Christ, c'est comme un entraîneur sportif. L'entraîneur sait ce qui est bon pour faire progresser l'athlète qui travaille avec lui. Et le repentir, c'est chaque fois que nous avons échoué dans notre objectif, c'est de revenir vers l'entraîneur et de lui demander de reprendre l'entraînement, de modifier ce qui ne va pas en nous. La culpabilité, c'est de se dire « je n'y arriverai jamais » et c'est de partir tout seul. Vous dites la vocation de l'homme est la vie éternelle. Alors c'est vrai, la barre est haute et même très haute, mais l'entraîneur la connaît. Et sait que nous pouvons y arriver. Il y a une dynamique entre l'image de Dieu et la ressemblance à laquelle nous sommes appelés à participer. L'image est un don de Dieu, mais la ressemblance viendra par la libre coopération de l'homme avec la grâce divine, avec la grâce déifiante que Dieu nous donne à chaque instant. On comprend ainsi que le péché, finalement, n'est pas d'ordre moral, ni amoral, c'est-à-dire étranger à la morale, ou bien immoral, qui va à l'encontre de la morale. Dans Larousse, d'ailleurs, la morale est définie comme l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception d'avis. Cet ensemble de principes est aussi appelé l'éthique. Dans le petit Robert, il dit « c'est l'ensemble de doctrines, de règles de conduite, de relations sociales » qu'une société se donne et qui varie selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société. En somme, l'éthique ou la morale peut être individuelle ou collective, et elle sert de base à l'action politique, c'est-à-dire à la gestion des affaires de la ville ou la gestion de l'État. L'éthique se traduit, bien sûr, alors par un ensemble de lois, un ensemble de règles, un ensemble de normes qui vont permettre de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable, et auquel il va falloir se conformer sous peine de sanction. Mais l'homme politique, comme ça, méconnaît justement une des dimensions essentielles de l'homme, à savoir que l'homme n'est pas simplement qu'un animal politique, mais il est surtout un animal divinisable. Et le christianisme est une doctrine divinisable. C'est pas ça que j'ai dit, c'est ça. Le christianisme qui est une doctrine voulant conduire l'homme vers la ressemblance de Dieu ne se réduit pas justement à des actes politiques ni à une morale parce que la finalité n'est pas la même. Le christianisme est une doctrine de la création et de la divinisation de l'homme appelé à prendre part à la vie divine. Tout ce qui concourt et tout ce qui coopère à cette œuvre de création et de divinisation par grâce est bon. Tout ce qui détruit, tout ce qui empêche cette œuvre de création et de divinisation, finalement, est mauvais. L'humanisme vise à sortir l'homme de son animalité pour en faire le chef-d'œuvre et le maître de la création dans cette vie terrestre. Et en ce sens, on peut dire que le christianisme veut aussi sortir l'homme de son animalité, veut l'humaniser finalement. Mais à nouveau, la finalité est différente. Le christianisme vise l'éternité et il donne à l'homme un objectif transcendantal. Et en ce sens, on peut dire que le christianisme n'est pas uniquement réservé aux chrétiens, mais c'est quelque chose n'est pas uniquement réservé aux chrétiens, mais c'est quelque chose d'universel qui s'adresse à l'humanité entière. Alors pour conclure sur ce mot péché, je vous ai dit que ce n'est pas de l'ordre de la morale, ce n'est pas un ordre juridique qu'il faut respecter. Et c'était là ce qui a été souvent et malheureusement présenté à tort dans les siècles passés. Ce n'est pas non plus un ordre commercial où l'on peut racheter ses fautes, mais c'est vraiment de l'ordre de la maladie spirituelle. Et ce dont l'homme a besoin pour guérir, c'est de retrouver justement le sens premier de sa vie. Le sens premier de sa vie, c'est d'essayer d'aller pour vivre éternellement dans l'intimité avec Dieu et de se laisser guider par sa grâce divine. Alors voilà, je vais arrêter ici pour le mot péché parce qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. Mais j'ai essayé donc de sortir un peu de cet aspect de faute et de culpabilité qui nous empoisonne, c'est le cas de dire, qui nous empoisonne la vie.